Il est 8h01.
Ce sont des moments importants et du coup galvanisants pour un site, parce que ça se fait qu'une fois tous les 10 ans. Et quand on réussit ces épreuves-là, c'est la garantie, par exemple pour l'enceinte, qu'elle sera apte à fonctionner pour au moins 10 ans de plus.
Voyage au cœur du réacteur, ou presque. Vous allez entrer dans un instant dans une centrale nucléaire, un lieu à l'accès extrêmement limité. Et vous verrez comment l'on procède en ce moment à l'état des lieux des centrales dont on veut prolonger l'activité. Autre découverte exceptionnelle dans ce journal, la ville de Mossoul, en Irak, où doit se rendre dans quelques jours le pape François. Notre reporter Jean-Sébastien Soldaini y est déjà et nous raconte la renaissance de cette ville après les ravages de l'état islamique. Et puis, c'est l'un des innombrables effets du réchauffement climatique, le réveil d'une maladie enfouie. Oui, dans nos forêts, des centaines d'hectares de châtaigniers sont déjà condamnés à l'abattage. Après le journal, l'interview politique. Bonjour Sonia Mabrouk.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Mon invité Christophe Castaner, président du groupe La République En Marche à l'Assemblée, c'est peu dire que ses oreilles ont sifflé hier lors de l'interview avec Marine Le Pen à ce micro. Il lui répond ce matin sur Europe 1, rendez-vous à 8h15.
Il est 8h02, très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et le journal de 8h, c'est avec Rémi Bossaron. Bonjour Rémi.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous. Ce sont des bâtiments impressionnants, mystérieux, familiers de nos paysages français, mais dans lesquels nous n'avons jamais l'occasion d'entrer. Nous vous emmenons ce matin dans une centrale nucléaire, la centrale du Bugey, dans l'Ain. Elle célèbre cette année ses 40 ans, et elle avait justement été construite pour durer 40 ans. Mais elle vient de recevoir, comme les autres centrales de sondage, l'autorisation d'être exploitée 10 ans de plus, à condition de passer une batterie de tests. Bonjour Élise Dangean.
Bonjour.
C'est vous qui êtes entré pour Europe 1 dans cette centrale nucléaire où ces tests sont réalisés en ce moment. Alors dites-nous, ça ressemble à quoi ?
Eh bien, ce qu'on remarque déjà, c'est un signe qui ne trompe pas. Il n'y a pas de fumée blanche au-dessus de l'une des cheminées de la centrale. C'est le réacteur numéro 4 qui est à l'arrêt depuis le mois de novembre. Pour y entrer, j'ai dû m'équiper complètement de la fameuse tenue blanche, t-shirt, chaussettes, combinaison, gants, casque et masque, la totale. Je peux vous dire que quand on monte à 20 mètres pour aller voir le haut de la cuve, tout ça tient bien chaud. J'ai été équipée comme les agents d'EDF. Ils étaient une quarantaine à ce moment-là dans le réacteur, ce qui n'arrive jamais en temps normal. Il est complètement vide. À l'intérieur, je peux vous dire que tout est passé au peigne fin. La cuve du réacteur a été en partie démontée pour être radiographiée centimètre carré par centimètre carré à la recherche de la moindre fissure. C'est assez impressionnant. Ça, ce sont les tests, mais il y a aussi les travaux d'amélioration de la sûreté, comme l'explique Pierre Boyer, le directeur du site.
Typiquement, vous voyez le pont roulant, c'est les deux poutres jaunes. En fait, c'est ce qui permet, avec un crochet, d'aller chercher toutes les charges qui sont introduites dans le bâtiment réacteur à 0 mètre. Pendant la visite décennale, on renforce tous les ancrages de ce pont-là pour qu'il résiste à un niveau de séisme supérieur.
Voilà, alors toute cette phase, que ce soit les tests ou les travaux d'amélioration, c'est presque 2 ans de préparation en amont. Un travail colossal pour que le jour J, tout se passe bien.
Il faut être concentré parce que c'est beaucoup d'activités différentes qui doivent s'enchaîner. Mais ce sont des moments importants et du coup galvanisants pour un site parce que ça se fait qu'une fois tous les 10 ans. Et quand on réussit ces épreuves-là, c'est la garantie, par exemple pour l'enceinte, qu'elle sera apte à fonctionner pour au moins 10 ans de plus.
Voilà, donc tout ça va durer encore 2 mois. L'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, devra ensuite donner ou pas son autorisation à une prolongation de 10 ans.
EDF met tout en œuvre pour pousser ses centrales le plus loin possible, mais elle se projette aussi vers l'avenir. Et l'avenir pour le nucléaire, ce sont les réacteurs de 3e génération, les fameux EPR.
Absolument, et EDF a déjà identifié plusieurs sites pour en installer, Bugey, où je me trouve en ce moment, ou bien Tricastin, mais aussi Gravelines et Penly en Normandie. Pour ça, EDF a besoin de l'autorisation de l'État, qui ne devrait pas arriver avant la mise en service du premier EPR à Flamanville, autrement dit pas avant 2023.
Merci Élise Dangean pour cette entrée exceptionnelle dans une centrale nucléaire, donc celle du Bugey dans l'Ain.
Dans le vaste combat mondial contre la pandémie de Covid-19, il y a toujours cette impression de confusion dans le choix des armes.
Dans le pays le plus endeuillé au monde, les États-Unis, l'un des États les plus peuplés, le Texas, s'apprête à laisser tomber le masque dès la semaine prochaine. Il ne sera plus obligatoire et tous les commerces pourront rouvrir. Explication du gouverneur américain de cet État du Texas, Greg Abbott.
It is now time. To open Texas,
c'est maintenant l'heure d'ouvrir le Texas à 100%, dit-il. Trop de Texans ont été mis à l'écart du marché de l'emploi. Trop de Texans ont eu des difficultés à payer leurs factures. Le républicain Greg Abbott, avec ses arguments économiques, qui pèsent donc plus lourd pour lui que le taux de vaccination au Texas. 7% seulement des Texans sont vaccinés, alors que Joe Biden promet désormais un vaccin disponible pour tous les adultes américains d'ici à la fin du mois de mai.
Pendant ce temps, en France, un département voit ses hôpitaux débordés sous l'effet du variant sud-africain.
Et ce département, c'est la Réunion où nous vous retrouvons, Charles L'Huillier. Charles, la Réunion va pour la première fois transférer ses patients vers la métropole. Et c'est un défi technologique. Des avions de fret sont transformés pour assurer ce transfert médical sur 9000 km.
Oui, c'est une première mondiale, m'ont confié les autorités hier. Dès demain soir, un Boeing 787 avec quatre premiers malades va décoller. 11 heures de vol au total. Avion qu'il a fallu complètement transformer, explique Sabrina Weddle, la secrétaire générale du CHU de la Réunion.
Nous aurons besoin d'embarquer plus de 30 000 litres d'oxygène à bord. Une zone qui sera à l'arrière de l'avion accueillera les quatre patients avec l'équipe médicale et ensuite, bien évidemment, une zone qui est un sas dans lequel les équipes médicales pourront s'habiller et se déshabiller pour accéder à la zone avec les malades toute la durée du vol.
Véritable défi sanitaire et logistique, car très risqué pour les malades. Alors du coup, l'idée n'est surtout pas d'ouvrir les vannes vers Paris, mais au contraire de transférer au compte-gouttes, prévient Martine Ladoucette, la directrice de l'Agence régionale de santé.
Une telle évacuation ne va pas de soi, ni sur un plan technique, ni sur un plan médical pour les personnes transférées. Elle doit être conçue comme un ultime recours le plus possible.
Un ultime recours, car ces évacuations sont aussi très coûteuses. Les autorités ne veulent pas communiquer sur les chiffres, mais on estime que chaque transfert pour chaque malade représente environ 10 000 euros.
Merci Charles L'Huillier de notre radio partenaire à la Réunion Radio Freedom.
En métropole, les 20 départements placés en surveillance renforcée vont voir leur sort débattu aujourd'hui. Conseil de défense sanitaire.
Réunion donc à l'Élysée avant les annonces attendues du Premier ministre Jean Castex demain. Ça concernera notamment Paris, Lyon et Marseille avec de possibles nouvelles mesures restrictives.
Un conseil des ministres est également prévu aujourd'hui avec à son menu la dissolution de Génération Identitaire.
Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait promis de dissoudre cette association d'ultra-droite. Elle doit être actée, cette dissolution, donc aujourd'hui. Mais on se souvient qu'avant lui, Christophe Castaner, mais aussi Manuel Valls, avait tenté la même chose sans y parvenir. Mais cette fois, le ministère de l'Intérieur s'appuie, Justin Morin, sur ce qu'il présente comme une radicalisation du mouvement.
Oui, point par point, le ministère détaille les preuves récentes, à commencer par la dernière action anti-migrants menée dans les Pyrénées. Au début de l'année, une trentaine de militants assimilables à une milice privée, selon Beauvau, a traqué des sans-papiers près de la frontière espagnole. Une enquête pour incitation à la haine raciale a d'ailleurs été ouverte. Alors, ce type d'action, il y en avait déjà eu, mais à l'époque, sans conséquence. Cette fois, les juristes du ministère de l'Intérieur s'appuient également sur la vingtaine de membres déjà condamnés en première instance et pointent l'influence néfaste de l'association que l'on retrouve jusque dans un dossier antiterroriste. L'année dernière, un ancien militaire qui projetait de s'attaquer à des juifs a été arrêté à Limoges. Chez lui, parmi les armes et les engins explosifs, les enquêteurs ont retrouvé des autocollants et des t-shirts siglés Génération Identitaire. Pour autant, Jérémy Piano, l'un des porte-parole, nous l'a assuré, cette décision ne fera pas taire les 4000 adhérents revendiqués.
Les militants contre l'insécurité, contre l'islamisation, le racisme anti-blanc, etc., eh bien, ces combats-là ne vont pas disparaître et ces militants-là ne vont pas disparaître non plus, même s'il y a une dissolution. Ils trouveront des associations, des partis, etc.
L'avocat de l'association l'a déjà fait savoir, Génération Identitaire va contester sa dissolution devant le Conseil d'État.
Merci Justin Morin du service police-justice d'Europe 1.
Vous restez bien sur Europe 1 dans un tout petit instant et c'est exceptionnel. Nous vous emmenons en Irak, à Mossoul, une ville qui renaît de ses cendres. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h11 sur Europe 1, la suite du journal, Rémi Bostaron.
C'est une de ces villes du monde qui résonne dans nos esprits comme un symbole des ravages de la guerre. Mossoul, en Irak. Dans 3 jours, la deuxième ville du pays va recevoir la visite du pape François. Or, il y a 4 ans encore, elle était la capitale de l'État islamique. Et Europe 1 était sur place à l'époque avec notre reporter Gwendoline Domono aux côtés des combattants irakiens opposés aux djihadistes.
Son minaret oblique qui domine les toits de la vieille ville semble narguer les soldats. La mosquée est devant nous, mais les djihadistes ont jeté toutes leurs forces dans ces 700 mètres. Pour appuyer les unités, les hélicoptères de combat mitraillent près d'un souk. Les départs de missiles emplissent les allées de fumée. La difficulté, dit le capitaine Allah, ce sont les milliers de civils bloqués dans le quartier.
Ils se cloîtrent dans leurs maisons. Dans ces anciennes bâtisses de Mossoul, il y a des pièces en sous-sol. Les civils restent dans les soubassements. S'ils sortaient, Daesh les tuerait.
Et ses habitants, libérés quelques mois plus tard, Europe 1 est de nouveau parti à leur rencontre. Bonjour Sébastien Sodaini.
Bonjour.
Ses habitants, ils revivent aujourd'hui dans une ville transfigurée.
Eh bien, Mossoul est une ville qui présente 2 visages. À l'ouest, vous avez les restes du chaos et des combats qui vivent désormais au rythme des travaux de rénovation. C'est là qu'Abou Bakr al-Baghdadi a proclamé son califat, juste en face de la boulangerie de Bedran.
Nous pouvons dire que c'est une renaissance, c'est une nouvelle vie qui nous est accordée. Et même si les affaires tournent à 40% de ce que c'était avant l'État islamique, nous avons l'impression de vivre au paradis si on compare avec l'époque d'avant. Daesh.
À l'est, les embouteillages gagnent le marché central où deux jeunes hommes se promènent bras dessus, bras dessous. Hassan, lui, s'avance tranquillement, cheveux gominés et veste flashy.
Il était interdit de porter un vêtement comme celui-là, avec des inscriptions en anglais ou dans une autre langue occidentale. Il fallait être habillé de noir ou de blanc, rien d'autre. Aujourd'hui, on fait ce qu'on veut.
Il reste sur ses gardes car certains esprits sont formatés par la vie sous l'emprise des djihadistes, dit-il, ce qu'ils appellent ici les enfants de Daesh.
Merci Jean-Sébastien Soldaini à Mossoul donc pour Europe 1, où se rendra donc le pape François attendu vendredi pour cette visite historique en Irak.
Le réchauffement climatique apporte des dangers nouveaux en France, mais il réveille aussi des dangers enfouis depuis longtemps dans nos sols.
Il y a un siècle et demi, la maladie de l'encre arrivait sur notre sol, mais personne ne le savait jusqu'à présent. Il a fallu se réchauffement climatique pour que cette maladie venue d'Asie s'active et attaque sa cible, les châtaigniers des arbres, condamnés à être abattus. 250 hectares sont déjà ciblés en région parisienne sous les yeux d'habitants sidérés, notamment dans la forêt de Montmorency. Pierre Herbulot.
Des troncs entassés sur le bord d'un chemin, une machine dépose les dernières cargaisons de bois mort sous les yeux stupéfaits des promeneurs. Ils ne reconnaissent plus leur forêt.
C'est impressionnant parce qu'avant, quand on passait dans cette allée, c'était assez sombre et assez touffu. Et là, maintenant, c'est très clairsemé, donc c'est un peu désolant. Nous, on a l'impression qu'on est en train un petit peu de saccager la forêt, quoi.
Ça fait des années que je viens régulièrement. Ça fait vraiment mal au cœur, hein. Personne ne comprend exactement ce qui se passe.
Si les châtaigniers semblent en pleine forme, ils sont pourtant bien atteints de la maladie de l'encre, presque invisible à l'œil nu et surtout incurable.
Les coupes, c'est toujours un moment qui fend le cœur.
Michel Béal est le directeur local de l'Office national des forêts. Si la coupe des arbres contaminés s'accélère aujourd'hui, c'est grâce à une cartographie inédite réalisée avec des images satellites.
Les photos qui ont été prises grâce à l'intelligence artificielle ont pu déterminer le degré d'avancement de la maladie. Ici, c'est une tempête silencieuse, comme on dit, qui est dans la durée.
Chaque arbre sectionné sera remplacé par un autre plus résistant, assure l'ONF. Chêne, cèdre, merisier. Mais il faudra quelques dizaines d'années pour que la forêt retrouve son éclat.
Le reportage dans cette forêt de Montmorency meurtrie de Pierre Herbulot.
Merci beaucoup Rémi Bossaron, c'était le journal de 8h sur Europe 1, il est 8h15.